Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h en ce 31 décembre. Jérôme se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2026. On sera avec vous du lundi au vendredi de 18h à 20h avec toute la Dream Team. Retour de l'équipe lundi prochain, le 5 janvier, pour une deuxième partie de saison qui s'annonce folle. D'ici là, on vous propose les traditions dans Rotten sans flamme, de l'humeur, du sourire, des invités et les quiz de Louis Gerbier à 19h45. Deux quiz sélectionnés, un avec la doublette All Metal Arché ce soir, l'autre avec la doublette du lundi Dugarry Dimeco. Mais démarrons tout de suite par notre spécial Paris FC. Le 8 décembre dernier, nous étions au centre d'entraînement à Orly des Parisiens avec tous les acteurs majeurs, Antoine Arnault le propriétaire, Pierre Ferracci le président, et les deux joueurs Maxime Lopez et Ilan Kebal. Écoutez,
toujours comme ça, au détour d'une conversation, on s'est dit que ce serait quand même pas mal d'avoir notre propre équipe de foot. Assez vite, on s'est focalisé sur ce projet magnifique du Paris FC.
Kylian Kebal qui Kylian Kebal, le premier but en Ligue 1 pour le Paris FC depuis 46 ans.
Je crois qu'avoir un des plus gros patrimoines économiques français à la tête de l'actionnariat du club, c'est inespéré pour le Paris FC.
La famille Arnault détient aujourd'hui 52% du Paris FC. Dans 3 ans, ce sera 80%. L'idée est de faire du Paris FC un club populaire, pas bling bling.
Et attention, Moses Simon, seul face à Fischer. 3 buts à 2 pour le Paris FC.
Je pense qu'en utilisant de bonnes méthodes, en ayant une gestion saine et rigoureuse, j'ai bon espoir qu'on puisse y arriver.
C'est l'événement ce soir sur RMC dans Rotten sans flamme, Jérôme. Le Paris FC nous ouvre les portes de son centre d'entraînement, un centre d'entraînement qui va être agrandi, qui va doubler de volume. On va passer de 8 à 16 hectares et pour l'occasion,
magnifique.
On a un casting de rêve aujourd'hui, Jérôme.
Ah ouais, merci. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors déjà, on va faire par ordre d'âge. Donc, Monsieur Ferracci, Pierre.
Ferracci,
salut Pierre.
C'est sympa.
Ça va? Ah oui, bah, le respect. On est avec donc Pierre Ferracci, Monsieur Antoine Arnault, qui est là aussi.
Bonsoir.
Merci d'être là.
Du Paris FC, merci beaucoup d'être là. Vous.
Et puis la jeunesse, du moins les jeunes, pas totalement jeunes, mais on est avec Max Lopez et Ilan Kebal. Salut les gars. Ça va?
Vous.
Ouais. Merci à tous de nous recevoir au lendemain de ce match de Ligue 1, donc ce match nul au Havre 0-0. Bah déjà les gars, le sentiment après ce match, la frustration un peu parce que c'est ce qui vous fait défaut en ce moment, un manque d'efficacité et vous repartez avec un point, vous avez failli repartir avec zéro parce qu'il y a eu un pénalty concédé mais raté par le Havre. C'est ça le sentiment ce matin, Max?
Ouais, énormément de frustration je trouve parce que... c'est vrai qu'hier on a failli partir avec zéro point et sur le match en plus c'est ça, c'est qu'on fait un bon match. Mais toujours ce problème-là où on n'est pas assez tueur et malheureusement, tant qu'on ne le deviendra pas, ben, nos matchs, ça sera cela. Il hein. ne faut pas se mentir. Oui, on est une équipe qui joue bien, mais si tu ne tues pas, ben, malheureusement, tu peux te faire punir dans Ligue 1 contre n'importe qui. Tu peux te faire punir à tout moment. Donc maintenant, voilà, on sait où aller la marge de progression, donc à nous d'améliorer ça, quoi.
Ilan, t'es assez d'accord avec ça, j'imagine. Moi aussi, en regardant le match hier, j'étais frustré pour vous parce que vous avez les meilleures occasions. Mais pour un joueur comme toi, on a quand même l'impression que dans cette équipe, tu t'éclates, quoi.
Oui, parce que comme il a dit Max, on joue bien au ballon, donc forcément, c'est plaisant. Même hier, on fait un très bon match avec le ballon, tout ça. Mais après, bon, ça suffit pas. On voit que faut marquer des buts. Et le problème, c'est qu'on a des occasions quand même assez franches, surtout quand on joue à l'extérieur. Et on a quand même, je crois, 4-5 occasions franches. Et si on n'en met pas une, en soi, c'est compliqué de gagner. Mais déjà, on ne l'a pas perdu hier, parce que comme vous avez dit, on aurait pu le perdre. Et là, je pense on serait venu ce matin encore plus énervé qu'on l'est déjà.
On avait la porte fermée, nous.
Donc voilà, on va dire que... voilà, on prend un point, on espère au moins gagner Toulouse. Au moins, on va dire que ce nul aura servi à quelque chose.
Ce sera le dernier match de Ligue 1 de 2025 avant la Coupe de France. L'autre événement marquant, président, c'est donc cet affrontement entre supporters dans les tribunes, la tribune visiteurs du Havre. Qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les conséquences de ces actes alors exactement?
Eh ben, on est en train d'analyser tout ça et de façon assez rigoureuse parce que ça nous ressemble pas. Nos ultras jusqu'à présent étaient plutôt tranquilles. Les problèmes venaient de l'extérieur plus que de nous. Là, c'est deux copes qui se sont affrontés. Et on va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans parce que c'est pas conforme à l'image du club. Bon, en plus, la frustration, elle était autant pour Max et pour Ilan que pour les dirigeants. Donc, rajouter ça à notre frustration, c'était pénible. Donc, on va mettre un peu d'ordre là-dedans. On va les réunir dès cette semaine. Et puis, c'est des histoires de fous. Hein. Chaque fois, vous le savez, chez les ultras, ça part pour un oui, pour un non. Mais nous, on n'a pas besoin d'entendre ça. On n'a pas envie d'entendre ça. Donc je peux pas en dire plus pour l'instant parce qu'on veut documenter ça de façon précise avant de prendre des sanctions sans doute, hein, comme d'habitude.
Antoine, merci donc d'être de participer à Rotten sans flamme sur ce début d'émission. Comment le club grandit vite? On a vu, vous l'avez donc acheté l'année dernière et puis très vite la Ligue 1. Comment on appréhende donc cette saison de Ligue 1? Est-ce que déjà vous êtes satisfait de ce début de saison?
Alors oui, on est satisfait. Évidemment, comme les joueurs et comme le staff, un tout petit peu frustré parce qu'on sait, on voit bien qu'on mérite quelques points de plus. Je pense que tous les dirigeants de club et même probablement tous les joueurs se disent qu'ils pourraient avoir quelques points de plus. Mais là, nous, vraiment, on a des occasions franches. On joue bien, quasiment systématiquement, peut-être sauf contre Auxerre. On se dit qu'on aurait pu soit accrocher le nul, soit gagner. Donc c'est un peu frustrant. Maintenant, n'oublions pas qu'on est un club promu. Il y a eu beaucoup de mousse et beaucoup de lumière autour de notre projet parce qu'on est arrivé, parce que voilà, tout le monde s'imaginait que tout de suite, dès la première année, tac, on allait atteindre la première moitié de tableau, voire même, j'ai entendu parler de Coupe d'Europe. Mais c'est, enfin, il faut pas rêver. On vient d'arriver. Déjà, on a eu beaucoup de chance avec une super équipe de monter de Ligue 2 en Ligue 1 tout de suite. Pierre Ferracci me rappelle souvent, il me dit « Toi, t'as passé 7 mois en Ligue 2, moi j'ai passé 7 ans.
Ouais. »
Donc, c'est déjà une chance incroyable. Après, une pyramide, ça se bâtit pierre après pierre. Donc, on va faire les choses step by step.
Après, vous le savez mieux que personne, on a compris les attentes. On est à Paris, c'est le deuxième grand club de la capitale. C'est un fantasme que les fans de foot avaient depuis des années. Vous représentez un groupe important, une marque très forte reconnue à travers le monde. Il y a eu des investissements cet été avec plus de 50 millions d'euros dépensés. Forcément qu'il y a eu de l'excitation. On l'a senti d'ailleurs dans les abonnements au stade Jean Bouin. Il s'est passé quelque chose. On a un peu l'impression que malheureusement là le soufflet retombe un peu parce qu'on se dit les résultats sont en train de ralentir et c'est peut-être votre enjeu à vous aussi, c'est comment on fait pour garder cette excitation, cette hype entre guillemets Paris FC pour qu'elle perdure et qu'elle continue comme ça.
Mais je suis pas d'accord avec vous, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en achetant des joueurs, on le sait bien, il y a eu je sais pas combien de projets dans le monde qui ont essayé d'acheter plein de bons joueurs qui les mettent ensemble et qui remuent un petit peu le cocotier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On va progresser, on va pérenniser le club dans cet espace du haut niveau. Cette année, on va essayer d'être dans la première moitié de tableau, mais les joueurs peuvent le confirmer, c'est difficile, le championnat est difficile, très compétitif. On voit bien que toutes les équipes sont dans un mouchoir de poche, sauf peut-être le PSG qui est devant, mais même le PSG n'est toujours pas leader alors qu'on est maintenant un peu plus du tiers du championnat. Donc il faut pas se voiler la face, c'est difficile pour les grandes équipes, mais c'est aussi difficile pour les plus petites équipes. Vous parlez du mercato. Rares sont quand même les mercatos qui tout d'un coup amènent des joueurs qui s'intègrent parfaitement, qui appréhendent leur nouvelle ville, leur nouvelle situation, les nouvelles ambitions d'un nouveau club parfaitement. Donc non, franchement, moi je parlerai pas de vous parliez de déception ou de gens qui pourraient voir que le soufflet retombe. Je suis pas du tout d'accord. Si vous venez à Jean Bouin, vous verrez que l'ambiance est excellente.
Ce que je vous ai dit, c'est qu'il y avait une excitation au départ. On a tous.
Il y a toujours une excitation. Venez à Jean Bouin samedi contre Toulouse, vous verrez l'excitation. Ouais. Et puis, moi, j'ai toujours eu un tout petit peu d'envie envers ces plus petits clubs. Moi, j'ai soutenu le PSG presque toute ma vie et j'ai toujours eu de
rien. Parce que j'y étais, moi.
Mais voilà, à l'époque, je t'ai vu jouer des dizaines de fois à l'époque. Et j'ai toujours eu ces petits clubs dans les plus petites villes de province, l'excitation que ça apportait de devoir aller gagner des matchs difficilement, de devoir se battre pour chaque but. Bah, c'est un peu ce qu'on va vivre là cette saison et probablement quelques saisons encore avec le Paris FC. Mais c'est extraordinaire. On va souffrir. Mais c'est bien de souffrir. Enfin, je veux dire, ça fait partie aussi du sport et ça fait partie du club. Si on arrive et qu'on je sais pas, moi, tout d'un coup, on dépense 200, 300 millions, qu'on prend des immenses joueurs. D'abord, c'est pas certain que ça marche.
Oui, et puis c'est plus le même projet dans ces cas-là.
Et puis c'est plus le même projet. On va construire les choses étape après étape.
Non, mais vous mettre en place. Ça a été une difficulté pour vous, ça, justement, d'avoir cette image de nouveau riche du football français. Les tarifs ont augmenté. Quand vous appeliez un club, on vous disait, oui, mais
de ne pas surpayer les joueurs.
On a toujours été très clair, et on a évidemment pas voulu fausser le marché dès notre arrivée. Enfin, je veux dire, ça aurait été un très mauvais message pour le club, et on se serait fait pigeonner le reste du temps. Donc, on a, je crois, pas fait d'erreur. Et on va continuer comme ça. Donc, quand on nous propose des prix absurdes, on raccroche tranquillement en disant merci beaucoup de votre intérêt et on passe à la suite. C'est tout.
Ouais, le président est sur la même longueur d'onde.
On n'est pas là pour jeter l'argent par les fenêtres non plus.
Non, mais vous n'avez pas fait de folie et de toute façon, ça va.
On n'en fera pas non plus. On est là pour le temps long. Donc, on va continuer à travailler comme ça. Je pense que le mercato d'hiver, c'est aussi un mercato de belles opportunités.
Un mercato d'appoint.
Oui, mais des fois tu chopes et de près, hein, ça peut marcher comme ça aussi.
Des fois tu chopes les bons joueurs. Hein. Moi j'ai été transféré en hiver à l'époque.
Bon, voilà. Okay. Tu veux revenir ?
Ça fait rire.
Non, vaut mieux pas pour vous.
Hein. Président, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, mais quand on repart pour un nouveau cycle, c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans quand on s'est dit il faut qu'on soit dans les 2 premiers, qu'on arrête de faire les barrages, qu'on perd chaque fois. Quand on repart dans un nouveau cycle, il faut 2, 3, 4 mercato pour rebâtir une équipe. Mm-hmm. Là, on a fait le premier mercato d'été. Je vous fais remarquer que, alors, c'est le côté positif et le côté négatif. Sur chaque équipe, il y a 7-8 joueurs qui ont fait la montée. Ça veut dire aussi qu'il y a quelques intégrations qui sont un peu plus longues que prévues. Bon. Eh ben, le mercato d'hiver, il est là pour corriger le tir, et le mercato suivant, mais il faut 3 mercato pour bâtir l'équipe qui correspond aux ambitions, 3 ou 4, aux ambitions du nouvel actionnaire. Donc, il faut pas se précipiter. C'est vrai que c'est frustrant ce qui s'est passé hier, parce qu'on loupe des occasions, et puis de temps en temps, on n'est pas tueur, comme le disait Ilan. Puis parfois, on se tue aussi sur un petit problème de concentration. Le pénalty qu'on prend, on doit pas le prendre. Heureusement, il passe à côté. Mais voilà, il faut être prudent. Et puis Antoine a raison, c'est un championnat difficile. On arrive. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de nous, mais on arrive. Donc il faut que cette équipe progresse. Et il y a effectivement 2 profils cet été qu'on n'a pas pu faire. On parlait de Sassin, mais il y avait un autre sujet.
N'Golo Kanté, notamment.
Je parle de personnes au milieu de terrain. Non, mais on va corriger le tir. On va corriger le tir.
Il ne peut pas arriver cet hiver, N'Golo Kanté.
Non, je pense pas.
D'accord. Ok.
S'il veut faire la Coupe du Monde, vaut mieux.
Je rappelle que nous sommes à Orly pour donc cette émission exceptionnelle en direct du centre d'entraînement du Paris FC avec Ilan Kebal, avec Maxime Lopez, avec Pierre Ferracci, avec Antoine Arnaud. Antoine Arnaud, j'ai juste une dernière question pour vous avant que vous nous laissiez. Merci beaucoup d'être venu comme ça dans
Retour sur Patrice. Merci, c'est un honneur d'être dans cette émission.
Non, c'est gentil, c'est gentil.
Comment on développe une identité club ? Une identité Paris FC, comment on se démarque du PSG, quelle est l'identité que vous voulez donner à ce club, comment vous voulez faire grandir la marque Paris FC?
Alors ça, il faut nous faire confiance, ça c'est notre boulot.
Créer
des marques, développer les marques, normalement on sait faire.
Ouais, vous êtes bien placé.
Là aussi, on va essayer de bien réfléchir à ce qu'on veut dire, à comment on se positionne dans le paysage du football français, mais à Paris en particulier, parce que c'est vrai que le PSG a une place évidemment prédominante dans cet écosystème-là. Mais je pense, je suis même certain qu'il y a la place pour au moins 2 clubs à Paris, 2 grands clubs. On le voit déjà, d'ailleurs, même avant notre arrivée, le Paris FC existait déjà dans l'imaginaire collectif. Il y avait déjà des maillots Paris FC qu'on voyait dans les rues, sur les
stades. Et comment se démarquer alors ? Quelle sera l'image du
Paris FC ? Ce sera un club, une autre proposition, un club différent, avec évidemment des racines différentes de celles du PSG. Peut-être un fonds de marque un peu plus populaire, peut-être quelque chose de plus familial. On a évidemment aussi Jean-Marc Gallo qui vient d'arriver, qui est un grand spécialiste des marques. Alors il développait des marques de champagne jusqu'à présent, donc c'est un peu différent.
Ouais.
Mais il saura faire, il sait bien s'entourer aussi, il sait prendre conseil auprès des meilleurs. Et on va y arriver. Il y a quelque chose déjà qui est en train de se créer autour de ça. Il suffit de venir autour du stade pour comprendre qu'il y a quelque chose de familial. Une autre proposition, sans du tout critiquer ce que le PSG et Nasser ont réussi à faire, qui est extraordinaire. Mais il y a quelque chose d'autre à créer autour d'une image d'un club, d'un deuxième club à Paris. Et on est en train, je crois, de le démarrer.
Parce qu'il y a une autre bataille avec le PSG. Et ça a dû vous faire sourire lorsque vous avez entendu le discours récent de Luis Campos et des dirigeants parisiens. C'est que maintenant, au PSG, on vous explique que c'est terminé les gros
investissements. Le centre de formation est important.
On veut miser sur la formation et le vivier d'Île-de-France. Pierre Ferracci, c'est son combat depuis des années. Voilà, depuis 5-10 ans, depuis qu'il est arrivé au club, juste après les années 2010. Comment on fait pour lutter face au PSG dans la bataille de la formation et du vivier d'Île-de-France?
Bah écoutez, ce vivier de notoriété publique, c'est donc le premier vivier au monde.
Au monde, bien sûr.
Je pense que deux grands clubs et deux grands centres de formation, c'est même probablement pas suffisant.
Il y a la place.
Il faudra probablement un troisième et un quatrième.
Et pourquoi on irait plus au PFC qu'au PSG alors?
Bonne question. Moi, à mon avis, je pense qu'il y aura plus d'opportunités pour les jeunes de jouer assez tôt dans une équipe première au Paris FC qu'au PSG, je pense, hein, vu le positionnement qu'on risque d'avoir. On va mettre quand même un certain temps à arriver en Coupe d'Europe, puis en Ligue des Champions. Donc peut-être que cette histoire d'opportunité, même si le nom pour l'instant en tout cas est nettement moins prestigieux, peut donner envie à certaines familles, à certains jeunes de nous rejoindre plutôt que d'aller ailleurs.
Et ce nouveau centre d'entraînement va servir à ça aussi, parce que le centre de formation va être agrandi ici aussi. Donc je pense que c'est un atout, comme le PSG l'a fait au campus avec leur centre d'entraînement.
Et je laisse le président
merci.
Le soin de développer
merci
ça.
Merci beaucoup merci, et bon courage.
Salut les gars.
Et à bientôt à Jean Bouin.
Bonne journée à vous. Et Rotten sans flamme va se poursuivre dans un instant, donc avec Pierre Ferracci, le président du Paris FC, avec Ilan Kebal, avec Maxime Lopez. On va parler de l'actu chaude, justement. Président
ils vont parler là, ils étaient en train de s'endormir là, les deux.
Ah oui, mais il y a plein de sujets à aborder avec vous.
On va pas vous lâcher.
Sur le jeu, ce qui choque Jérôme, c'est qu'il y a quand même deux Marseillais qui représentent un club parisien. Ça, on va en parler dans un instant.
Et c'est eux-mêmes, ils ont dit on est parisiens maintenant.
Ils ont plus d'accent, ils ont plus rien.
Non, il n'y a plus rien.
Et dans un instant, la suite des meilleurs moments de Rotten sans flamme, la suite de cette spéciale Paris FC, toujours avec Ilan Kebal, Pierre Ferracci et Maxime Lopez. À tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
La suite des meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h sur RMC. Ensuite, ce sera l'after pour l'actu foot de la journée en ce dernier jour de l'année, le mercredi 31 décembre. Restez avec nous dans un quart d'heure. Louis Gerbier sera là pour son quiz avec deux doublettes sélectionnées ce soir. On le met à l'arqué du Gary Dimeco. Mais on poursuit la spéciale Paris FC avec Pierre Ferracci, le président, Ilan Kebal et Maxime Lopez, les deux joueurs. On est toujours donc en direct du centre d'entraînement du Paris FC avec Pierre Ferracci, le président, avec deux joueurs majeurs. Deux joueurs que t'adores en plus, Jérôme, ouais. Ilan Kebal et Maxime Lopez. Deux joueurs qui font pas de mal au ballon, quoi.
Ouais, voilà. Non, ils font pas de mal au ballon. C'est pour ça que je suis content de les avoir. Alors après, on va dire oui, mais parce qu'il les reçoit, alors ils parlent en bien d'eux. Non, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que vous êtes deux joueurs que j'apprécie, déjà dans le style, dans le volume, et puis dans le fait de pas se cacher techniquement sur le terrain. On l'a encore vu hier sur le match au Havre. Le plan, moi je voulais parler du coach, parce que le coach on le découvre aussi à ce niveau-là. C'est quoi son plan précis? Parce que vraiment il est surprenant, parce qu'il vous fait bien jouer, vous êtes une des équipes qui joue le mieux en Ligue 1.
Ouais, je pense que plus moi, parce que Max il est arrivé on va dire l'année dernière, mais ouais, moi ça fait 3 ans que je suis avec le coach. Et il a toujours eu cette ambition de jouer, peu importe contre qui on joue. C'est pour ça que la semaine dernière il était vraiment... nous aussi on était déçus, mais du match d'Auxerre on va dire c'était
il était pas bon celui-là,
il était pas ouf quoi. Ouais, il était vraiment un match pas ouf à regarder, et...
après le métronome était pas là.
c'est vrai faut...
c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure.
C'est vrai, bon après c'est quelqu'un de humble, mais des fois il faut c'est vrai que son absence même à Lille, bon même si à Lille on a fait un meilleur match, mais son absence c'est un joueur qui compte beaucoup dans le style de jeu que le coach veut mettre en place. Et on l'a vu hier, de toute façon, notre jeu par rapport à Auxerre a complètement changé, parce que c'est quelqu'un qui, justement, c'est le cœur du jeu, c'est lui qui nous fait jouer, c'est lui qui nous amène les ballons devant. Donc quand il est là, c'est plus facile à jouer.
Ouais, c'est un des premiers relanceurs.
C'est le relanceur. Ouais.
Mais c'est la base du système Gilles. Alors vous n'allez pas tout dire, parce qu'après les adversaires, il faut en faire attention. Mais est-ce que j'imagine que c'est répété sur les entraînements au fur et à mesure, les premiers relanceurs, les défenseurs essayer de trouver Max un maximum, et puis derrière il orientera le jeu.
C'est parce qu'on travaille, mais je pense qu'après au fur et à mesure du temps, t'as connu ça, t'as joué, au bout d'un moment les défenseurs ils savent que dès qu'ils ont la balle, ils te la donnent, donc c'est naturellement ça se fait en fait, on va dire. Et le coach, il y a en plus là cette semaine, vu que on n'était pas sous pression, mais bon, on va pas se mentir, on a besoin de résultats aussi, il faut qu'on fasse des points. C'est même cette semaine où bon, on aurait pu se dire oh, ils vont aller au Havre, ils vont fermer un peu la boutique et un peu moins jouer, ben non, il a continué à dire qu'il fallait qu'on joue, qu'il était le premier à assumer la responsabilité de, par exemple, le penalty qu'on s'est dit hier, si c'est pas peut-être le coach ou c'est un autre, peut-être que Kevin, peut-être qu'il dégage directement, ouais. Il la donne même pas à Mousse, donc c'est une idée de jeu qu'il a. Et puis moi honnêtement, bon, t'imagines bien que je suis venu là ici pour ça aussi, ouais. Voilà, exactement, ouais. Parce que je savais qu'il y a des joueurs comme Milan et tout, donc non, ça, je trouve que c'est bien parce que moi honnêtement, début de saison, je pensais que peut-être il changerait un petit peu quand même parce que la Ligue 1 c'est différent.
Ouais, s'adapter, ouais.
Parce que quand tu joues énormément, tu peux te faire punir. On le voit même une équipe comme l'OM qui a un coach qui veut jouer.
Bah, par moment, il refuse le jeu, ouais.
Malheureusement, en Ligue 1, des fois, tu es un peu obligé. Et du coup, non, c'est ce qui est bien, c'est ça.
Mais c'est beau, même pour un club comme vous, comme ça, qui est promu, qui a envie de se maintenir, de faire confiance à des petits gabarits comme ça. On a ce cliché de la Ligue 1 qui est très physique, très tactique et où on peut pas s'exprimer techniquement. Vous êtes la preuve qu'on peut faire l'inverse, en fait, finalement. Ilan, Max, vous êtes deux membres.
Bah, ce qu'ils appellent les joueurs de football, en général.
Max, t'es capitaine, t'es au cœur du jeu. Toi, Ilan, t'es la révélation de ce début de saison, d'ailleurs, avec des stats impressionnantes. Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est beau. C'est
il y a de la place pour vos profils en Ligue 1.
Après, c'est vrai que nous, avec notre style de jeu, faut tomber sur un coach qui a cet aspect football. Si tu tombes sur un coach qui veut pas, son premier but c'est pas de jouer au football, c'est sûr qu'on va être mis de côté. Mais je pense que même physiquement, voilà, c'est vrai que oui, on est petit, bon ça on l'apprend à personne. Mais je veux dire que quand on est sur le terrain, voilà, il est rarement au sol, il se fait pas bouger, il joue avec sa tête, je joue avec ma tête aussi. Je veux dire, en vrai.
Ah, tu trouves des alternatives,
exactement.
Hein, de toute façon, c'est ça depuis tout jeune, hein, de c'est toute ça, façon. Hein. Moi non plus, j'étais pas un grand gabarit non plus, ouais. Et t'es obligé pour contrôler le ballon, pour garder exactement. Le ballon, de trouver des choses.
S'adapter, c'est ça, jouer plus vite, voir avant. Mm-hmm. Et jouer au football, tout simplement. À la base, quand on est petit au football, on t'apprend à jouer et pas sur l'aspect physique, même si c'est important aujourd'hui encore plus dans notre championnat qui est un championnat très difficile au niveau physique, course. Mais justement, on a réussi, je pense, à s'adapter.
Pierre, une question. Bah, c'est sûr que ça doit te faire plaisir de voir ces deux joueurs-là. C'était aussi tes choix de les avoir dans l'équipe et de voir que aujourd'hui, ils brillent dans l'équipe.
Bah oui, mais comme Stéphane, c'était mon choix aussi.
C'est ça, exactement. Je voulais te le dire parce que
en 2023. Et je précise, pour parler de la période un petit peu molle en ce moment, que Ilan s'en souvient, sur les 10 premiers matchs en 2023. On en perd 7 et on est 17e et première légale.
Ah oui.
Puis après, sur les 28 matchs suivants, on quitte plus les deux premières places et on termine barragiste. Et sur la saison suivante, on termine deuxième. Mm-hmm. Ça, c'est Stéphane. Et moi, je l'ai connu quand il était adjoint de Mecha Bazdarevitch. Mm-hmm. J'ai déjà vu la patte du bonhomme. Mais c'est vrai qu'on l'a protégé quand il a perdu 7 matchs sur 10. Et d'ailleurs, Ilan avait démarré la saison un peu blessé, comme la suivante. D'ailleurs, il s'était fait blesser à Bastia. Cette année, c'est la première fois qu'il démarre en ayant fait une préparation totale. Et ça se voit. Mais Stéphane, oui, moi j'aime pas l'expression mourir pour ses idées, parce qu'il n'y a pas de raison de mourir. Non. Quand on a de bonnes idées, il faut rester bien vivant.
Ouais, et puis dans le foot, il faut toujours s'adapter.
On lui fait confiance, et quand on regarde bien, bon, on a pris une claque à Marseille, mais on a vu dans quelles conditions, hein, si on revient à 3-3.
Vous étiez plus proche du match nul à un moment que
d'une. Ça a commencé à siffler au Vélodrome, mais autrement, on perd de peu. Alors il faut gommer ça, parce que ne pas être tueur, comme le disait Max, c'est un peu gênant, il faut l'être plus. Puis de temps en temps, faire oublier les fautes de concentration. Mais nous, on fait confiance et à ces joueurs et à Stéphane. Et c'est vrai qu'il y a la place pour des joueurs de ce type en Ligue 1, mais heureusement.
Mais tu fais bien de parler de Stéphane Gilly, parce que moi, je sais que je me cache pas. Hein, au mois de juin, j'avais eu des mots assez durs envers lui parce que.
Oh, la rotelle.
Je trouvais. Oui, mais parce que moi pour un club qui monte, et Antoine l'a bien rappelé aussi, c'est quand même un club promu. Donc pour un club qui monte, c'est sûr que d'avoir de l'expérience sur un banc de touche, c'est aussi important. Et quand t'as un novice à ce niveau-là, plus des joueurs, la plupart sont novices aussi et découvrent la Ligue 1, ça peut être une grosse prise de risque. À l'arrivée, franchement, ce qu'il fait depuis le début de saison, et ça va dans le sens d'Ilan et de Max, ce qu'ils disent, c'est qu'il ne s'est pas renié. Et ce qu'il met en place, franchement, montre que c'est un super coach.
Mais Jérôme, quand on l'a pris en Ligue 2 il y a 2 ans, c'était sa première responsabilité. Il était adjoint depuis 15 ans ou 20 ans de Mecha. Mais la première responsabilité, c'est très bien que c'est pas la même. Quoi. On assume tout. Ben, on l'a pris, on lui a fait confiance. Il venait d'avoir son diplôme. Mm-hmm. Ben, pareil en Ligue 1. Moi, effectivement, j'avais entendu, j'étais pas très content. Je savais qu'il allait réussir.
Je sais, tu faisais la tête, mais bon.
Ouais, je faisais un peu la tête. Bon, parfois, quelques raisons de faire la tête.
Ouais,
en général, on apprécie l'émission.
Exactement.
Il n'y a pas de problème.
Et voilà.
Mais je pense que ce foot, il est trop conservateur parfois. Il faut prendre des risques. Mm-hmm. Et les jeunes, par définition, ils ont moins d'expérience que les anciens, et il faut les lancer quand même. Quoi.
C'est vrai, c'est vrai.
Et de temps en temps, il faut accepter les erreurs qu'ils font.
ça peut concerner un coach, un joueur, autrement on s'en sort plus. Mais, et on tourne toujours avec les mêmes.
Mais t'es d'accord aussi qu'en Ligue 2, la prise de risque, elle est moindre qu'en Ligue 1. En Ligue 1, avec l'aspect médiatique, d'autant plus aujourd'hui avec le projet.
Avec l'arrivée de la famille Arnaud et de Red Bull, c'est sûr que la pression.
Ça met une pression de plus.
Bien sûr. Et donc Stéphane, il résiste, puis il faut l'accompagner dans les moments un peu difficiles. Et je pense que le groupe, il est. Là aussi, j'aime pas trop le groupe vit bien, le groupe vit bien. Il faut que les résultats soient là pour qu'ils vivent bien définitivement. Mais on voit bien qu'il manque pas grand chose. Mmh. Et puis après, ils connaissent la concurrence. On a loupé deux profils clés au mois d'août. Un profil devant et puis un profil au milieu, parce que ces deux-là, ils courent beaucoup. En plus, Ilan, quand Max n'est pas là, il court encore plus.
Il court,
il termine à genoux, il est complètement épuisé. Mmh. Donc, il faut aussi les relayer dans la construction du jeu. Mais Stéphane, on va le défendre avec ses idées, parce qu'elles vont payer. Le nombre d'occasions qu'on a, il n'est pas en rapport avec le nombre de buts qu'on met. Non, même si on a une attaque qui est déjà pas mal. Hein, mais quand même, il faut marquer plus. Puis pas prendre des buts idiots comme on le prend parfois pour des problèmes de concentration. Parce que moi, je fais confiance aussi aux joueurs de derrière. Hein. C'est des beaux talents. Après, une équipe en construction, c'est aussi un Brésilien qui arrive et qui maîtrise pas la langue. Ouais. Ben, on avait Rai, il y a quelques années, qui est l'ambassadeur du club. Voilà, une équipe, quand on regarde bien, qui est en défense comme milieu, doit se faire. Et puis
après Rai, c'est pas Otavio, hein, quand
même. Non, c'était un autre talent.
D'accord. Bon, tu me rassures.
Mais tu verras Otavio.
Non.
J'ai confiance dans le bonhomme.
Dire le défenseur, on lui demande avant tout d'être solide et de défendre son but.
On rappelle que le Paris FC nous accueille aujourd'hui dans le centre d'entraînement, puisque c'est l'agrandissement de ce centre d'entraînement ici à Orly.
Ça va être magnifique.
Ah, tout ce qui est fait pour ce club. On est avec Ilan Kebal, avec Maxime Lopez, avec Pierre Ferracci. J'ai une question un peu plus personnelle, président, parce que le Paris FC, ça fait partie de votre vie depuis plus de 10 ans désormais. C'était votre rêve de permettre au club d'accéder en Ligue 1. Cette fois, c'est fait. Il y avait des chantiers délicats. Il y avait ce centre d'entraînement que vous avez aussi bâti et que vous avez mis en place. Il y avait le fait de quitter le stade Charletti. Vous avez réussi à le faire enfin et vous êtes au stade Jean-Bouin. Comment vous vivez cette saison personnellement? Parce que oui, vous êtes encore là aux commandes de ce club. Il y a un actionnaire qui est puissant et qui est important. Il y a aussi le groupe Red Bull qui est là et qui aujourd'hui vous aide à prendre des décisions. Est-ce que vous la vivez pleinement cette saison de Ligue 1? Est-ce que vous êtes décisionnaire comme ça ou est-ce que vous partagez les responsabilités aujourd'hui?
Je partage la décision avec un actionnaire puissant qui est accompagné par Red Bull. Moi, j'ai toujours dit, je l'avais dit à mes deux fils quand en l'été 2023, on a vu qu'on titillait à la Ligue 1 et qu'on allait arriver, qu'en Ligue 1, il y avait deux solutions. Où on jouait, pas tout de suite, mais où on jouait l'Europe et la première partie de tableau. Et ça, c'était des centaines de millions d'euros d'investissement dans la durée, où on jouait, et j'ai beaucoup de respect pour ces équipes-là, à faire l'ascenseur. Mmh. Certaines équipes le font.
Oui.
Bon, on a choisi de jouer le haut du tableau, donc j'ai choisi d'ouvrir la porte à un investisseur puissant. À l'époque, à l'été 2023, je pensais pas d'ailleurs à la famille Arnaud. J'avais plein de propositions étrangères pour la plupart. Je souhaitais simplement que ce soit plutôt une solution nationale. Et celle-là, elle est remarquable. Donc à partir de là, ben moi, je suis en période de transition. On sait que je suis là jusqu'à juin 2027. Je suis encore actionnaire, mais minoritaire. Ça change. Ça aussi, un peu de confort, hein, quand on est actionnaire minoritaire, qu'il y a un gros à côté parce qu'il y a de lourds investissements.
Il y a une fierté personnelle tout de même de voir tout ça qui se développe.
Il y a une fierté personnelle de gagner la Coupe de France avec les filles contre le PSG. Hein, de monter en Ligue 1 le même week-end, le 2 mai et le 3 mai. De voir Nino au Stade de France jouer avec le maillot orange. Avec le maillot orange du club qui fait un tabac aussi. Ouais. Et puis après, d'arriver en Ligue 1, donc je la vis pleinement, avec toujours les interrogations du président, qui est toujours un peu inquiet quand ça se passe un peu moins bien, mais qui est toujours conscient que ces moments difficiles, ils laisseront place à des moments plus agréables.
Comment on a vécu, président, quand on a votre fils, hein, que vous avez mis en place, qui a pris du recul par rapport à la direction sportive? Comment on vit ces moments-là? Parce que bon, cela, c'est une histoire de famille, hein, c'est même plus une histoire professionnel.
Quand on rencontre un modèle du type Red Bull en matière de direction sportive, il y a des choses qui sont un peu différentes de celles qu'on a vécues avant. Avant, le club, c'était Stéphane Gilly, mon fils et moi qui prenions les décisions. Elles n'ont pas été si mauvaises que
ça. Non.
Et dans la partie du recrutement dont s'est occupé François cet été, je pense qu'il y a de très bonnes choses qui ont été faites. Bon, après, il y avait un choc de méthode et un choc d'état d'esprit. François n'a pas souhaité s'inscrire là-dessus. Je pense que Red Bull n'avait pas forcément envie de travailler autrement. Enfin, Red Bull et la direction sportive. Marc Onep est arrivé, il a une grosse expérience.
Avec le Bayern.
Pleinement. Et puis François, il va rebondir. Tout le monde sait ce qu'il a apporté au club. L'effectif précédent, et ces deux-là, c'est lui qui a été les chercher, hein, pour l'essentiel.
Les petits gabarits.
Un des meilleurs recrutements qu'on a fait avant que Max arrive, c'était de garder déjà Ilan.
Ouais,
il fallait le convaincre.
Alors justement, alors c'est une belle passe décisive, Monsieur Ferracci, parce que RMC Sport a sorti des infos qui te concernent aujourd'hui, Ilan, en disant que tu voulais rester au Paris FC. C'est vrai que tu es sollicité parce que tu es la révélation de la Ligue 1 dans ce début de saison. Tu nous le confirmes, tu vas rester à Paris et tu vas t'inscrire dans la durée dans ce projet parisien. Fais sourire Max, ton capitaine, tu me regardes.
Oui, là il y a le mercato dur, bien sûr que je vais rester, parce que voilà, le club c'est le premier club à vraiment m'avoir fait confiance. Donc oui, c'est sûr que mercato qui arrive, oui, je vais pas bouger, ça, c'est une certitude.
Celui-là.
À moins que le président vienne me voir et me dise faut que tu partes, mais moi je pense pas.
Ça veut dire que cet été c'est moins sûr. L'été prochain.
Après cet été c'est toujours pareil, il faut voir ce que le club. Il y aura forcément encore de nouveaux investissements. Ce sera plus pareil qu'aujourd'hui. Donc faudrait voir quelles sont les ambitions du club aussi. Je pense que ça déjà en janvier. Le club va se renforcer. Donc déjà, nous, si on compte sur moi, bien sûr que je serai toujours là.
Ah, Ilan, c'est une histoire de zéro, j'ai compris. Bon.
Non. En tout cas, ni Antoine Arnaud, ni Marc Honnep, le directeur sportif, ni moi n'avons envie de laisser partir Ilan.
Donc, ça me paraît logique, président. L'autre question, Ilan, et c'est normal, t'as 27 ans. Donc tu découvres la Ligue 1. Quand on découvre la Ligue 1 avec autant de bonnes choses depuis le début de saison, et j'espère vraiment pour toi, il n'y a pas de raison que ça s'arrête et que ça continue jusqu'au mois de mai. Derrière, il peut y avoir des sollicitations et il y a des choix de carrière aussi, parce que 27 ans, t'es plus un jeune joueur. Donc j'imagine que tout ça peut rentrer en compte.
Bien sûr. Après, comme vous avez dit, j'ai 27 ans, donc c'est plus facile aujourd'hui à gérer ce genre de choses-là. Mais comme il a dit le président, j'ai dit, bon, on était en Ligue 2, c'était pas forcément les mêmes opportunités. Mais quand j'étais en Ligue 2, il y a eu deux étés où j'aurais pu partir déjà en Ligue 1, et que avec le club, le président et François et le coach, j'avais décidé de rester. Mais déjà, l'arrivée de Max aussi m'avait convaincu aussi de rester. Mais j'aurais pu partir déjà l'été dernier. Et finalement, aujourd'hui, je regrette pas, parce que comme j'ai dit, je joue mon meilleur football dans le club où je suis tombé amoureux de ce club, où je me sens bien avec les gens qui travaillent dans ce club-là. Après, bien sûr, comme vous avez dit, on verra ensuite. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, dans jusqu'à la fin de saison, moi, je veux rester ici. Et après, comme on a dit, on verra d'ici là, mais normalement, il n'y a pas de raison de
partir, non. C'est sûr, dans un club ambitieux.
Max, toi, c'est différent, c'est un vrai choix aussi que tu avais fait, un choix courageux à l'époque, tu as rejoint un club en Ligue 2.
Non, mais c'est vrai,
t'étais en Italie, t'es revenu en France, t'es venu pour aider ce club à franchir cette marche et à aller accéder à la Ligue 1, t'es le capitaine, t'es le patron du vestiaire, tu joues avec ton frère, enfin, il y a tout un symbole autour de tout ça. Est-ce que c'est galvanisant comme ça de développer un club jeune et pour toi d'avoir un rôle comme ça prépondérant? T'as eu un bon début de carrière à Marseille, t'as été souvent décrié, mais finalement tu faisais tes matchs, etc. avant de t'exiler à l'étranger. Là, t'es le bonhomme important de ce projet. Est-ce que pour toi, tu t'éclates? Est-ce que tu dois rester des années comme ça au Paris?
Ouais, non, franchement, c'est vrai que ma trajectoire, honnêtement, si on m'avait dit ça, l'année de la Fiorentina, où quand même, où je joue beaucoup moins, mais qu'on fait une finale de Coupe d'Europe, et si on m'avait dit que j'ai 3 mois ou 4 mois après, j'allais être au Paris FC en Ligue 2, bon, ça manquait de respect à personne, je pense que j'y aurais pas cru, mais voilà, après, j'avais pris cette décision-là avec notamment le fils du président, François, où on avait eu des discussions où je pense que sur le premier message, il n'y croyait pas quand j'avais parlé de venir, et je pense que le président, il peut le confirmer. Ouais. Je pense que personne n'y croyait, même les joueurs, ils n'y croyaient pas. Bon, après, ça s'est fait. L'année dernière, ouais, comme j'ai pu dire déjà, j'étais en mission, quoi. Vraiment, je me voyais pas faire plusieurs saisons en Ligue 2 sans manquer de respect au championnat, qui est un championnat que j'ai découvert la saison dernière, qui est un championnat très très compliqué.
Ouais, dur, c'est
et quand je vois même encore un peu, je suis un peu les résultats, je vois que c'est encore cette année, c'est encore pareil, c'est un peu bourbier partout. Et puis maintenant cette année, on est en Ligue 1, on a une bonne équipe. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis capitaine de l'équipe. Donc voilà, je me sens bien à Paris, j'ai déjà dit plusieurs fois,
t'es totalement épanoui là, Max, ça se voit de toute façon, et j'imagine que, comme tu l'as dit, le tremplin c'était ça, d'accepter la Ligue 2, de pas rester des années. En un an vous arrivez à monter, là il y a aucune raison que tu ailles voir ailleurs.
Et puis honnêtement, sur le terrain, après chacun aura son avis, mais moi, mon avis personnel sur ma saison, c'est que je fais presque mon meilleur début de saison depuis que je joue au foot.
Ah ouais.
Même ma première année à Marseille, c'est vrai qu'elle était pas mal, mais je trouve que là, vu que j'ai pris en maturité, mon jeu il est différent, je suis un peu plus mature dans ce que je fais, tout ça.
Et t'étais le premier relais, en fait. Tu touches, moi, je regarde quasiment tous vos matchs.
Bien sûr.
Déjà, je viens à Jambouin souvent, et puis je regarde les matchs comme hier, celui au Havre. Et c'est vrai que t'es le premier relais. Moi, je te trouve très intelligent dans tes déplacements, de toute façon, et beaucoup plus qu'à l'époque.
Exactement. Avant, j'étais un peu foufou parce que t'as connu ça quand t'es jeune. Tu cours partout, tu fais 15 km par match. Mais là, c'est vrai que j'ai pris en maturité. Et puis après, bon, on a une complicité assez forte sur le terrain et je trouve qu'on fait pas mal de mal aux défenses, que ce soit par nos déplacements, nos passes et tout le reste. Et donc voilà, après, pour revenir à ce que tu me demandais, bien sûr, moi, c'est un projet qui est fou. Je pense qu'il y a même certains joueurs qui sont au club ou qui sont arrivés au club qui se rendent pas compte du projet dans lequel on est.
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, en Europe et peut-être dans le monde, il y en a zéro des comme ça. Où il y a un actionnaire aussi puissant qui investit autant et qui veut faire vous l'avez vu, le centre d'entraînement qui va être fait.
Ah oui, ça.
Je pense qu'il veut prendre son temps.
Exactement. Non, mais je pense qu'on se rend pas compte. Et bien évidemment que moi, il a 27. Moi, j'ai fait 28 là, récemment. Donc, bien sûr, moi, je suis, la vie à Paris, elle est top.
Non, mais en plus, on a tendance à te vieillir. Alors, comme tu le dis. Non, mais c'est vrai. Non, parce que ça fait très longtemps. T'as démarré jeune à Marseille. Là, t'arrives, t'es déjà capitaine de cette équipe en un peu plus d'un an. Donc, oui, on a tendance à dire, Max, il est en train de finir sa carrière, mais pas du tout. 28 ans.
J'espère qu'il me reste encore pas mal de temps. J'ai des bonnes relations avec le président, avec le nouvel actionneur. Donc, le directeur sportif, pareil. Donc bien évidemment que j'espère, moi j'aimerais m'inscrire sur la durée ici. On sait jamais ce qui se passait. Bon, en janvier, moi honnêtement je vois pas.
Non, tu seras là en janvier toi a priori.
Après c'est pareil pour tous les joueurs, on peut jamais dire au mercato prochain, je sais pas, on sait jamais. Peut-être que si je fais une top saison, peut-être que j'aurai une opportunité que je peux pas refuser, que Voilà, mais franchement moi je me sens très bien au club et à Paris. Hein.
Le risque pour vous c'est de perdre l'accent finalement, à force.
Ouais.
À force de traîner.
Ça va, on a pas trop perdu.
Juste un dernier mot.
Ils ont pas d'accent. Bravo.
Ils sont bien à Paris. T'as vu comment ils sentent bien à Paris.
Regarde les sourires qu'ils ont, ils sont épanouis.
Il y a du soleil en plus.
Il y a du soleil. Il y a la CAN qui arrive quand même, la Coupe d'Afrique avec l'Algérie. C'est un grand moment que tu attends. Il y a un entretien que tu as fait avec Aurélien Tiercin, qu'on remercie d'ailleurs, qui nous a aidé à monter cette délocalisation qui est retrouvée sur rmcsport.fr. La CAN, c'est le grand objectif qui arrive pour toi avec l'Algérie, là?
Oui, bien sûr. C'est vrai que ça va être une compétition. Déjà, c'est une compétition très, très difficile aussi. Il y a des favoris, mais bon, on ne sait jamais que c'est ce genre de compétition.
Tu vas pour gagner?
Bien sûr. À tout le monde, de toute façon. C'est le but. Hein, quand t'es, comme j'ai déjà dit, quand tu es une équipe comme une nation comme l'Algérie, quand tu fais la CAN, tu te dois d'aller au bout. Après,
vous n'avez pas le choix, Ilana.
Voilà, c'est
moi, ma femme est algérienne.
Ah voilà.
Donc je veux dire, sinon je suis mort.
Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, c'est non. En vrai, l'objectif c'est d'aller le plus possible, juste en tant que compétiteur déjà dans ces compétitions-là. Mais on sait que ça va être très très difficile parce que voilà, déjà on sait que c'est au Maroc, il y a le Maroc aussi qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde, il y a la Côte d'Ivoire, les anciens finalistes. Donc là, ça va être très difficile, mais on va là-bas pour se battre et on espère aller le plus loin possible.
Merci à tous, en tout cas, de nous avoir reçus ce matin.
Merci
Président Ferracci, un plaisir.
Président, merci.
Merci les gars, et Ilan, plaisir, Maxime. Merci. Vous êtes venus sur un jour off en plus, donc merci encore.
Il n'y a pas de souci, grand plaisir.
Et on vous souhaite une bonne saison.
Vous pourrez encore jouer.
On fera la facture à Jérôme.
N'hésitez pas.
C'est pour moi. Je suis gavé, de toute façon.
Merci
et bon courage. Et gagner contre Toulouse, maintenant, c'est le mot d'ordre.
Et encore un grand merci au Paris FC qui nous a reçus le 8 décembre dernier pour une spéciale. Donc, PFC pour l'agrandissement du centre d'entraînement, à retrouver en podcast sur les plateformes de téléchargement. Dans un instant, les quiz de Louis Gerbier. Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h, ne bougez pas.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Je vous souhaite une bonne année, un peu en avance, puisque nous sommes le 31 décembre. Donc bonne année à tous. Soyez prudents si vous prenez la route ce soir et surtout restez à l'écoute d'RMC. On sera là dès demain pour la suite des meilleurs moments et dès lundi prochain pour la reprise des émissions en direct avec Jérôme et toute l'équipe. Qui dit Rotten sans flamme dit forcément quiz de Louis Gerbier. C'est parti.
RMC.
Ça va, tu t'es mis un
tous
peu de,
contre Rotten.
Louis Gerbier est là, salut Louis.
Un peu d'apaisine sur les fesses, là, presque t'as pris vendredi.
Allez, vont s'affronter ce soir Florian et Guénaud. Salut à vous deux.
Salut Guénaud, salut Florian.
Guénaud, tu es supporter du PSG, tu veux jouer avec Jérôme?
Voilà.
N'hésite pas.
Guénaud, tu veux jouer avec Jérôme?
Oui, bah évidemment.
Florian, bien sûr.
On va y aller, les amis. Alors, hier, on a fait le jeu de la, enfin pas le jeu de la vérité, enfin la question vérité avec Jérôme. Aujourd'hui, ça sera sur Pascal Olmeta, le thème.
Ah ouais.
Et on commence par une question vérité comme hier. Pascal, tu préfères le TNT ou le C4? Non, c'était une blague. Allez, on commence avec les vraies questions. Quel coéquipier de Pascal à l'Olympique Lyonnais fut également coéquipier de Jérôme Rotten à Monaco?
Ah, pas mal.
Julie. Bonne réponse.
Julie, c'est qui Julie?
Oui, c'est
Ludo.
Julie Lesco.
Bon. 1-0 pour Jérôme.
Et ça aurait Julie, c'est ton ex. Hein.
Ah, c'est ton ex, Jérôme, Julie?
Oh, ça a dû faire partie. Oui.
Allez, 1-0 pour Jérôme.
Allez, bah, puisque c'est le thème.
C'est normal qu'il s'en souvienne.
C'est le thème question all meta.
Ah, ouais. Jamais, s'en souvient pas. Mais tu en mets un crochet du droit.
Tac, tac, ouais, les deux touches. Pascal a pris 3 cartons rouges en Ligue 1 contre Auxerre, Nantes et quel club?
Paris, locaux. Ah oui, il fait voler un éclat locaux. Hein. Je me rappelle de ça. Voilà. Bravo.
Ouais, bravo.
Pascal, tu as le droit de répondre. Bravo, tu as le droit de répondre.
Et j'ai
le droit de répondre.
Bah oui,
j'ai une petite anecdote à ce sujet-là.
Ah ouais, vas-y.
Comment s'appelait-il? Peu importe. Il était en train de monter les images et Pascal passe à côté du car montage. Et il l'interviewe en lui disant: mais Pascal, qu'est-ce qui vous prend à 35 mètres de votre but d'envoyer Patrice Loco en plage horizontale à 3 mètres du sol? Et Pascal fait cette réponse incroyable, dit: mais il n'y a rien là. Pascal en le mettant. Et non, Loco qui était en lévitation de la pelouse.
Écoute,
il n'y a rien.
Jean-Michel, je te remercie. Parce qu'on n'avait rien à mettre dans Rotten sans fou aujourd'hui. Et bah
c'est très bien.
Tu me l'as fait le podcast. Merci, Jean-Michel.
Allez, un parcours.
Benoît, le faillot qui éclate de rire. Non, mais l'autre. Qu'est-ce que tu
es. Mais respectez les anciens, ils sont malades ceux-là.
Question auditeur, les amis.
Évidemment, ça t'intéresse.
Allez, on y va, on n'a pas beaucoup de temps. Question auditeur, Florian Guénon. Pascal Olmeta était finaliste de la Coupe du Monde, mais en quel sport?
Soccer beach.
Foot plage.
Ouais, voilà.
Ouais, beach soccer, quoi.
On va faire comme si on n'avait pas entendu Pascal répondre.
Bon, qui a répondu?
Guénon, c'est Guénon.
Ça fait 2-1 pour Jérôme et Guénon.
Yes. Question pour le patron.
Salut, c'est Jérôme Rotten.
RMC, la question pour le patron.
Avec Pascal? Ouais, tu vas voir. Quel joueur présent dans la liste de 2006, contrairement à Jérôme, a le même prénom qu'Olmeta?
Pascal
Chibonda.
Chibonda.
Chibonda. Nanana.
Celui-là,
on l'a pas vu arriver.
Celui-là, on l'a pas vu arriver, on l'a pas vu partir.
Lui. Question flash, quel ancien Marseillais est lui aussi présent dans la liste de 2006? Décidément, tout le monde avait moyen d'y être. Est né comme Pascal un 7 avril. Ribéry.
Oh. Oh oui. Oh joli, oh. Bravo.
Ah, il a déjà toutes les réponses.
4-1. Non, mais non.
4-1 pour Jérôme.
Je gagne sur ton terrain. Je suis intègre, moi. Ouais. Question d'Imec. Ouais.
Oh là, bravo, messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
On cherche un joueur qui, comme Pascal, a joué à Barcelone et à Paris. Bon, c'est Paris espagnol, mais c'est la ville qui compte. Espagnol. Alors... Il a joué au FC Barcelone, ensuite à l'Atlético Madrid, ensuite à Gênes. Ah non, pardon. Excusez-moi.
Mais qu'est-ce qu'il fait?
Non, c'est pas lui. Hein.
Mais qu'est-ce que. Non, si, c'est ça, pardon. Il a joué à Gênes, à l'Inter et au Paris Saint-Germain. Pardon. Un saut de ligne.
À Gênes, à Barcelone aussi.
Barcelone, Paris Saint-Germain.
Christian.
Milieu de terrain.
Élégant.
Lucien Muller.
Manager aujourd'hui.
Ouais.
Leonardo.
Non. Pas loin.
Oh là là, Jean-Michel.
4-2, réduction de l'écart.
Qui c'est?
Mota.
C'est Mota, Thiago Mota.
Thiago Mota. Pascal, du coup, on vient de dire que tu as joué à l'Espagnol Barcelone. Tu y portais le numéro 14. Quel est le numéro 14 de l'OM?
De l'OM?
Cette saison.
Qui?
Hein?
Aubameyang, non.
Maxao.
Oui.
Maxao.
Oui.
Ah, bravo.
Oui, mais là,
4-3, réduction de l'écart encore.
La bonne réponse vaut 3 points.
C'est donc une balle de match.
Non, mais arrêtez avec ça.
Balle de match.
Moi, je n'y peux rien. Alors moi, quand je mène, à chaque fois, c'est ça. C'est soit
les
à 0,
de 76. Balle de match. Il n'y a pas de question, non.
Balle de match. Qu'est-ce que... Non. Il n'y a pas question. On va faire une question con pour finir.
Ah ben, allez, ça m'étonne.
Pour Jérôme.
Ouais. Quel joueur champion d'Europe avec Marseille peut être au jambon, au fromage ou encore au cèpe?
Sandwich Angloma
Boxige champion d'Europe Bonner, Edli Deschamps
Réfléchissez oh.
Quoi, Moser Boli
Pensez au Casoni
du jour.
Casoni voleur.
Thauvin
Pascal Palidé.
Oui.
Et ouais, ils nous le mettent au fromage, oui, ils nous le mettent au jambon.
Ça fait rire en plus. Et la victoire donc du Real
RMC. Tous contre Roten.
Salut Louis.
Salut l'équipe. Salut à tous.
Accueillons Thomas et Eric qui vont s'affronter ce soir. Salut à vous deux.
Déjà là, Eric.
Salut.
Ah, Eric, supporter de l'OM, je vais te mettre avec Eric, hein, si ça te dérange pas. Avec Eric et Dugas.
Ah, c'est parfait.
Magnifique. Sachez juste que Jérôme Roten vient de menacer Louis Gerbier. Hein, en mode, tu me fais gagner, sinon tu dégages. Donc, on va voir si Louis est courageux.
Même dans cette émission, c'est truqué. Ça suffit.
Et pourquoi tu dis ça?
Je vous ai déjà dit que moi, le courage, c'est ce qui me caractérise.
Et le cadeau, c'est cadeau robot lave-vitre EasyClean. Voilà, un robot qui lave tes vitres. Donc, pas mal.
C'est génial.
Bonne chance à Eric et Thomas.
On va le recevoir demain, on va le tester.
J'espère, oui.
Après, faut être des bourgeois avec des baies vitrées.
Ah bah oui, mais là, on a un 3 autour de la table, les consultants.
Bah oui.
Ah, pourquoi, quand tu tiens des fenêtres à ta maison, tu aimes bourgeois?
Ah, toi, non, Benoît, tiens.
Moi, j'ai pas de baie vitrée.
Nous, bah voilà. Nous, avec Benoît, Christophe, on est tranquille, tu vois.
Nous, avec lui, on dort ici. Hein.
Bah oui.
Ah, Benoît, arrête.
Petite chambre individuelle au 5e.
On voit l'appart que t'as dans Paris.
Ouais, c'est sûr.
Franchement, ça donne envie. Hein.
Les amis, ça vous embêterait d'utiliser mon Joker Kingsley un jour ou c'est quoi?
Sinon, au milieu.
Écoute, franchement, il était dégueulasse, mais on va peut-être le prendre.
Allez, hop. Il va bien revenir un jour. On va faire aujourd'hui un thème France-Azerbaïdjan, Islande-France. Que des grands matchs.
Oh, ah ouais.
Là, les amis, je sens que je vous tiens. On commence avec une question flash. En 1994-95, les Bleus ont rencontré deux fois l'Azerbaïdjan. Une victoire 2-0 et un score fleuve. Combien la France a gagné ce
10-0.
Match
10-0.
Jérôme.
Pas comme si on avait reçu.
Non,
c'est Jérôme. Moi. C'est Jérôme et de loin.
Je commence toujours par une question, tu vois.
Ah ouais, d'accord.
Et de loin.
Ah bah largement,
là, c'est
là.
Pareil que le Kikadi du coup.
Il y a un vrai décalage avec ta machine, Eric.
Allez, on enchaîne avec toujours le même match. Christophe est buteur lors de ce match.
Mais Franck Leboeuf.
Ouais. Oui. Comment il a fait là?
Alors bah, comment il a fait? En fait, on a reçu Franck Leboeuf vendredi qui nous a raconté tout le match en détail.
Je sais qu'il a marqué, Franck.
Là, elle est pas. Non, mais là, c'était qui a mis un doublé? Non, mais là, alors, c'est pas son taf.
Louis, j'aimerais bien que t'écoutes l'émission avant de faire les
quiz. Ouais, non, mais
Louis, et puis, il nous a tout raconté en détail. Si tu nous parles de la match acrobatique,
Non, c'est fini après. Après, j'avais une question con. Normalement, elle peut marcher, celle-là.
Ah, ok.
On cherche un buteur.
Ah bah, tu viens pas de la poser la question con là.
Non, on cherche un buteur lors de ce 10-0. C'est un joueur, il arrive toujours après les bagarres, il se pose sur les yeux des participants.
Coquin.
Bien joué. Ouais.
Donc ça aussi on l'avait raconté, ça fait 3-0 pour Jérôme et Thomas.
On n'avait pas dit que son nom de famille ressemblait à un coquin.
Si t'en as d'autres sur ce match, vas-y. Ah,
vas-y, pas d'accueillir.
Tu m'as dit.
Quitte à être ridicule, jusqu'au bout.
Tu m'as dit, fais-moi gagner. Fais-moi gagner, je te pose des questions où tu connais les réponses.
Est-ce que t'as la question qui a sa dernière sélection ce jour-là?
Non, non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas.
C'est David Gino. C'est David Gino là.
Je ne l'ai pas.
Qui a refusé de rentrer pour offrir la prime à Thuram? Tu l'as pas, ça
non plus.
Elle non plus.
Le retour de la tionquesse du jour.
La tionquesse du jour.
Clématez un peu là, les ricaneurs là. Vous allez devoir donner la réponse en verlan. Demande que le nom de famille. Quel ancien parisien était titulaire vendredi contre l'Azerbaïdjan pour sa 3e titularisation? Ah, moufte-moi là.
Hein? Ancien parisien.
Il jouait à Liverpool.
Manco.
Coup de coup.
Non, c'est beaucoup trop drôle.
Et qui tiquait?
Eh ben,
ah ben non, c'est pas la mer.
Si. Et qui tiquait?
C'est un palindrome, donc tu peux le dire dans les deux sens.
Il fait des blagues tout seul.
Non,
mais là, je suis en train de vivre une émission incroyable.
Attendez, il y a Eric qui le fait en direct.
Mais si. Moi, si. Vous si.
Ah oui.
Je gâche du temps de présence avec mes enfants. Ah ouais, ça marche.
comme
ah ouais merde ça marche
comme Laval
ouais, ah ouais mais non mais c'est pas Verlaine qui l'a dit là ouais, ça, toi tu dis palindrome ok mais sauf que quand tu le dis quand tu le dis en Verlaine c'est
quiétité
c'est
question auditeur
on en a combien 3-1
4-0
une volée
question auditeur quel joueur a inscrit le deuxième but des Bleus vendredi dernier
Thauvin
non
le deuxième c'était de la tête
Olivier eh, pas toi tu joues pas du gars les auditeurs
Olivier
non non Il a souffert du, il s'est tapé avec un coéquipier
il y a pas longtemps. À mon avis, vous avez fait comme Dugas, vous avez pas regardé le match.
Non, c'est un peu ça.
Ouais. Adrien. Bah j'annule. Adrien. Bon, non, mais c'est même pas on dit Adrien du coup là, c'est gênant.
Rabiot les gars.
Bon. C'est toujours aussi serré, 4-0 pour Jérôme face au reste du monde.
Eh ben une question GG.
On finira comme les Grecs, sortez vos liquidités.
Non,
je rigole pas.
Il y a l'espoir.
Faites gaffe à votre épargne. Placez votre argent.
La question GG.
On va voir si ça fait les malins là. Quelle est la mer du littoral azerbaïdjanais?
La mer morte.
Et non.
Mer noire.
Ah merde.
La mer noire.
Et non.
Ah non, mais c'est la mer rouge. Rouge.
Bah non.
Voilà. La mer caspienne.
Oui, bonne réponse.
Oui, bravo.
Bravo du gars. Oh.
Ça Eric, c'était une question pour me sentir intelligent et me prendre pour un ingénieur.
Oui, oui. La mer noire.
Ça quand je reviens au GG après je me prends pour un ingénieur.
4-1. Bravo du gars.
Question flash, quel joueur entré en jeu vendredi a été formé dans l'immense club de la Berrichonne de Châteauroux?
Je l'ai. Châteauroux.
Non. 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 Il est grand.
Il est Batetta.
Il est grand. Oui.
Oh, du gars énorme, 4-2.
Allez, c'est fini pour l'Azerbaïdjan, on va passer à l'Islande.
Ah, enfin.
Question, oh question du gars.
Faites comme moi, soutenez la fondation Alzheimer. J'oublie tout,
ce soir j'oublie tout. Tout le monde joue ou que du gars?
Non, tout le monde.
Tout le monde.
Okay.
Tout le monde joue. Lors d'Islande-France en 1999, éliminatoire de l'Euro, il y a eu 1-1. Un partout, même on dit en français. Il y a eu un partout. Quel joueur français a mis le but des Bleus?
C'est à quelle année ça?
99.
Zidane.
Trezeguet. Presque. Trezeguet.
Will Tord.
Non, meilleur, meilleur.
Non, Djorkaeff.
Non, non, plutôt genre du niveau de Zidane, tu vois.
Du niveau de Zidane
Martins.
Non.
C'est Dugarry. Moi.
Oui. Bonne réponse, Christophe Dugarry.
C'est moi.
Je me souviens même c'est moi qui l'a marqué. Non, mais c'est.
Oh ouais, non, mais du gars.
Non, mais j'ai mis la bite.
Non, mais du gars, à un moment donné, quand même.
Mais sans déconner, des gars, mais
attendez. Demande-moi comment j'ai joué au golf ce week-end, je peux te répondre.
Il a mis tellement de buts en équipe de France, il se souvient plus, du gars.
Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il a mis 100 buts, donc il s'en souvient plus, il a mis 100 buts, j'ai oublié.
À chaque fois que j'en écris une comme ça, je me dis, elle va pas marcher. À chaque fois,
c'est dingue. C'est dingue.
4 partout.
Oh, une petite couille.
Mais non, 4-3.
Non, 4 partout. Quiz incroyable.
Il y a du temps encore.
Ah non, 4-3.
Qu'est-ce qu'on dit, mec?
2 points, mais c'est
ça qu'on dit, mec.
Bravo, messieurs! Vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe!
Ouais. Il n'y aurait pas un petit joker par hasard, ça vous avez pas envie de le prendre? Moi je le
mais
vends.
Mais qui bah. Nous? Qui a le droit de le prendre?
Mais tout le monde a le droit, ça fait 8 semaines que tout le monde a le droit.
Vas-y, mais je ne savais pas moi ça.
Je le prends moi, vas-y.
Le joker Kings League.
Et ça c'est une dinguerie.
Si tu perds, tu perds un point.
Oui, mais c'est pas grave, il y aura égalité.
Ok, très bien.
Eric et Christophe, tout le monde peut le prendre au moins une fois. Allez, la question des hommes, des grands hommes. On cherche un buteur lors du France-Islande 99, le match retour cette fois. Il y a eu 3-2. Il a commencé à Monaco, il est parti à la Juventus.
Trezeguet.
Ah là 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 là.
Il est allé trop vite.
Et pourtant, j'ai pas dit les clubs.
Et là, ça fait 6-3.
C'est trop facile.
Ça doit être
là.
L'heure de la route.
Alors là, hey, je me la fais pas l'envers.
Voilà. Le score est remis à 0.
Oh, incroyable, balle de match alors. Balle de match. Entre Thomas et Eric, entre Jérôme et le reste du monde.
Non mais Niki, là, je vais le.
Le.
Tu vas le niquer.
Le quoi ? Ouais.
Alors, on va. Eh, écoute, au moins, on va finir. Ça va te faire plaisir avec une question Savidan.
Bah, c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
Nous écoute. Tu sais ce que c'est la question Savidan ?
Ouais. J'arrête de lui faire parce que.
Tu s'énerves.
Ah bon, il s'énerve. Après, je vais pas contrarié. Ah,
ouais. On cherche un joueur en citant tous ses clubs. Donc un joueur titulaire lors de cette Islande-France 1999. Il a commencé à Saint-Seurin, ensuite à Auxerre. Ensuite, il est allé à
Valbona.
Sunderland
en 99.
Oui, bonne réponse.
Oh, la victoire du reste du
Duga,
monde.
Duga, tu es une machine, Duga.
Duga stratosphérique. À part son but, oh, il a tout trouvé.
Duga, bravo. Quand ça parle pas de lui, il est trop fort.
Et la victoire d'Eric qui remporte ce magnifique cadeau.
Tous contre Roten sur RMC avec le Windowbot S12 Vibramax de la marque EasyClean. Premier robot laveur de vitres assemblé en France. Il rend vos fenêtres éclatantes sans effort.
Merci Louis, merci Julia, merci Eric.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite donc une bonne année 2026, un peu en avance. Et je vous retrouve demain pour la suite des meilleurs moments de Roten sans flamme. Bonne soirée à tous, ciao.
RMC, les meilleurs moments de Roten sans flamme. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.